sur 103,5. L'université congolaise a fêté dernièrement son jubilé d'or. Comme une mère, cette université a mis au monde des milliers de cadres universitaires qui ont fait la fierté de notre pays. Cependant, quel est le visage que présente l'université au Congo? Après un demi-siècle d'existence, le sujet vous intéresse? Réagissez donc dès maintenant en nous envoyant vos SMS au 081 070 2050 ou encore appelez-nous au 081 890 63 94. Nous recevrons tout à l'heure le professeur Kengali Mbavita pour plus d'informations et éventuellement nous aurons également un autre invité, mais ce sera au téléphone sûrement, le professeur Karumba, recteur de l'université de Lubumbashi. Mais pour l'instant, nous allons faire le tour des questions avec Jody Nkashama qui est présent dans ce studio. Bonjour Jody.
Bonjour Nathalie.
Jody. Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui du cinquantenaire de l'université au Congo?
D'abord, Nathalie, il faut savoir que l'université a une triple mission, d'après nos sources. L'enseignement, c'est l'enseignement d'abord, la recherche et le service à la société. Mmh. Alors, selon le professeur Bernard Loutoutala, qui est le recteur de l'université de Kinshasa, l'université congolaise a rempli sa mission, mais avec beaucoup de difficultés. Je vous invite à l'écouter.
Le bilan est mitigé, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Il est mitigé, c'est-à-dire mitigé dans quel sens? Dans le sens où nous avons pu remplir nos missions, mais difficilement, sans moyens conséquents. Et comme les moyens n'ont pas été là, donc les missions ont été accomplies, c'est vrai, mais avec des lacunes, par-ci, par-là. Nous versons sur le marché d'emploi plusieurs milliers de diplômés, mais qui accuse quelques faiblesses parce que chimiste qu'il sort, il n'aura pas été vraiment dans des laboratoires pointus pour ce qu'il doit faire. Il sort économiste, il n'aura peut-être pas eu accès à une bonne documentation pour affiner les connaissances lui transmises par les professeurs. Voilà un peu la difficulté que nous avons par rapport à ça. Mais sinon, le corps enseignant, il est là, il est compétent. Vous savez, beaucoup de professeurs que nous avons ici sont les mêmes qui donnent des cours dans certains autres pays à l'étranger et qui sont très bien appréciés. Et ils excellent par là. Donc, ce n'est pas le problème des formateurs. Les formateurs ont les compétences nécessaires. Le problème, c'est au niveau du contexte dans lequel les études se font et le problème des équipements, des laboratoires, des bibliothèques qui manquent.
Donc, il a fait un peu le tour de la situation, c'est vrai, le professeur Bernard. Oui. À l'occasion de ces 50 ans de l'université au Congo, est-ce que vous avez pu recueillir les réactions et avis des camarades étudiants?
Bien sûr, nous avons tendu le micro à quelques camarades étudiants qui ont réagi par rapport à la situation actuelle de l'université congolaise. Je vous propose de les écouter.
Personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que rien ne marche. Rien ne marche. On voit toujours que l'université continue toujours à se dégrader. Et dans le sens où les étudiants ne se donnent plus dans de recherche suite à beaucoup de paramètres. Primement, la fondation n'est pas d'abord bonne, dans le sens où les écoles, les humanités, les diplômes commencent à s'acheter, n'importe comment, tout ça. Et quand la fondation n'est pas vraiment bien battue, je crois qu'il y aura des fissures.
Sur le plan formation générale, à l'université, ça marche, tout marche bien. Mais comme la politique est en train de manifester le plein fouet sur les activités académiques, et que la politique elle-même ne marche pas très bien, c'est ce qui influe négativement sur les activités académiques.
Oui, effectivement, le bilan est tout à fait positif et négatif. Dans ce sens, du point de vue positif, nous comptons on compte beaucoup d'intellectuels sur place ici à l'université. Vous allez vous-même voir les hommes politiques dans l'administration, dans la vie courante, sont fruits de l'université de Kinshasa. Et sur le plan négatif, vous allez même remarquer que tous les étudiants sont à l'extérieur à cause de frais exigés, quand bien même les parents ne sont pas payés, etc. Mais les enseignements se donnent quand même. Les gens se sacrifient, que ce soit les professeurs, malgré malgré qu'ils soient impayés, malgré qu'ils n'ont pas de moyens possibles, mais ils se donnent.
Mm-hmm. Et les parents, je dis, comment est-ce qu'ils réagissent à l'occasion de ces cinquantenaires de l'université congolaise?
Oui, la plupart des parents déplorent tout simplement la baisse du niveau de l'enseignement aujourd'hui. D'après eux, la formation des étudiants aujourd'hui laisse à désirer. Ces étudiants brandissent des diplômes universitaires, mais ils accusent beaucoup, beaucoup de lacunes. Je vous propose de les écouter.
Le niveau des étudiants d'aujourd'hui est très bas. C'est à regretter. Parce que vous voyez, même sur le plan professionnel, il y a même les finalistes de là qui ne parviennent pas à se défendre. On peut parler même, par exemple, dans les barreaux. Vous allez voir un étudiant qui est terminé en droit qui ne sait pas même défendre un dossier. Donc il va être là comme étiquette, il ne sait pas vraiment défendre. Et à l'économie, l'enfant qui sort qui a terminé l'économie, il ne sait pas vraiment vous faire un travail là-bas professionnel. Les bilans, ils ne savent pas faire. La comptabilité, ils ne savent pas faire. Il faut l'initier, prendre quelqu'un, le mettre à côté pour qu'il puisse commencer à apprendre en gros.
Voyant le niveau d'études de jeunes étudiants congolais, franchement, on doit mettre tout en cause, on doit reprendre tout. C'est l'État qui doit prendre les choses en main. Il faut reprendre les choses en main, réhabiliter les conditions des étudiants. Ainsi, je pense que le diplôme congolais sera accepté.
Et dans tout ça, je dis, quelles sont donc les perspectives d'avenir pour l'université congolaise?
Bien, avant de répondre à votre question, Nathalie, j'ai découvert sur un site web appelé Webometric, Ranking of Web Universities. C'est un site qui fait le classement des meilleures universités du monde.
Okay.
Alors, pour les universités africaines, ce site a publié une liste des 100 meilleures universités. Figurez-vous, aucune université congolaise ne figure sur cette liste. Aucune alors. On retrouve par exemple des universités sud-africaines, rwandaises, namibiennes et autres, mais aucune université congolaise. Alors, j'ai d'ailleurs la liste ici devant moi, tu pourras jeter un coup d'œil de temps à autre sur cette liste-là. Mm-hmm. Alors, revenons à votre question. Vous savez, un symposium avait réuni le 21 avril dernier au Palais du Peuple les hommes des sciences pour faire le bilan des 50 ans de l'université congolaise et envisager les perspectives d'avenir. Mm-hmm. D'ailleurs, notre invité, le professeur Kanga, avait fait un exposé au cours de ces symposiums. Alors, à l'issue de cette rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Monsieur Théo Barouti, a donné quelques perspectives d'avenir au micro de Donna Madimba. On peut le suivre.
Bon, mais 50 ans, c'est la maturité pour une vie. C'est l'âge d'or. L'opportunité nous a été donnée pour écouter l'histoire de la création de l'université en République démocratique du Congo. C'est une histoire à la fois pathétique, mais pleine d'expériences positives. Il y a aussi des faiblesses, parce que même si sur le plan de structure, notre université était en avance par rapport à son temps, nous pensons que beaucoup d'efforts doivent être faits pour l'adapter aux circonstances du temps et des lieux. Nous sommes en pleine réforme, c'est à la fois la réforme sur les programmes, sur les structures, et c'est donc un ensemble de réformes en profondeur.
Voilà, merci beaucoup Jodine Kachama. On vous retrouvera très prochainement, toujours dans le cadre de la chronique étudiant.
Je vous en prie.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une délire. Voilà, nous aurons comme invité le professeur Kanga, psychologue et professeur à l'université de Kinshasa. Le professeur qui a fait un exposé lors du cinquantenaire de l'université. Oui, professeur, si vous pouvez porter les casques, voilà. Nous aurons également le professeur Kaouma, le recteur de l'université de Kinshasa. Ok. William, il faudrait peut-être venir. Comment? Ah oui, Lubumbashi, excusez-moi. La plus linguiste, n'est-ce pas? Donc, bonjour professeur.
Bonjour.
Ok, William, si vous pouvez rapidement venir pour voir un peu arranger le micro de notre invité. Donc, nous sommes là sur la cinquantenaire de l'université de Kinshasa, l'université congolaise. Quel bilan
quel bilan pour l'université congolaise? Vous avez suivi vous-même, les professeurs ont parlé dans ce reportage, les étudiants ont parlé, les parents ont parlé, et jeudi a même été plus loin, il a été sur l'internet pour fouiller. Professeur, vous avez suivi ce reportage, je pense, avec attention. Ma première question serait de savoir, par rapport par exemple à ce webométrique, Ranking of World University, quelle est votre réaction qu'aucune université de la RDC ne s'y retrouve?
Oui, pour répondre, dans nos milieux, la première chose à se demander, quels étaient les critères d'évaluation? Sur quoi se sont-ils basés? Mm-hmm. Est-ce qu'ils se sont basés sur l'organisation académique? Mm-hmm. Est-ce qu'ils se sont basés sur l'organisation administrative ou financière? Est-ce qu'ils se sont basés sur le rendement interne de l'université? Mm-hmm. Ou le rendement externe, c'est-à-dire les résultats des gens qu'on a formés? Mm-hmm. Donc en fait, c'est ça le problème. Sur quoi s'est-on... On s'est basé sur quoi? Bon, alors quand on dit qu'il n'y a aucune université effectivement congolaise, c'est pourquoi je dis ça dépend des critères. Mm-hmm. Est-ce que c'est un problème de financement, le budget, le coût unitaire par étudiant? Effectivement, si on prend la situation actuelle, prenons par exemple le financement de l'université, mm-hmm. le coût unitaire pour le moment, effectivement c'est difficile. Quand dans mon exposé j'avais dit par exemple, selon les données de la Banque mondiale, qu'à l'heure actuelle, l'État congolais en 2002 payait $20, dépensait $20 par étudiant. Si vous prenez simplement ce critère-là, on ne peut pas se retrouver sur cette liste-là. Mm-hmm. Donc ça dépend. Ma réaction à moi, bah, écoutez, c'est comme quand on classe, hein. Mm-hmm. On prend des critères, on classe. Si vous n'êtes pas retenu dans le minimum, bah, effectivement que vous n'êtes pas retenu. Mm-hmm. Donc pour moi, sur quoi s'est-on basé pour qu'on regarde un peu et porter effectivement un jugement.
Donc vous dites, vous parlez des critères, mais néanmoins nous avons entendu jeudi le dire que l'université a une triple mission qui est celle d'enseigner, qui est l'enseignement, la recherche et le service rendu à la société. Vous, en tant que professeur, évidemment, pensez-vous que les trois mission a été remplie à ce jour?
Vous prenez quelle période? Parce que nous, l'exposé, on fête le cinquantenaire. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on prend l'université depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Alors, quand vous posez la question, est-ce que ces critères, ces éléments ont-ils, ces missions ont été remplies? Mais ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, effectivement, l'université congolaise a donné, à former des cadres et des cadres de valeur, mmh. effectivement, et qui ont répondu aux objectifs que l'État s'était fixé.
Mmh.
Bon. La recherche, mmh. effectivement, la recherche a été réalisée. Si je ne prends que l'université que je connais le mieux, l'université de Kinshasa, parce que je suis ancien de l'université de Vanium, nous avions, effectivement, par exemple, vous prenez en sciences économiques, l'IRES, l'Institut de recherche en sciences économiques et sociales, était de réputation, avec une grande réputation. Les recherches en sciences politiques, effectivement, avec des procédures que les VERAG, et ainsi de suite, il y a eu des recherches effectivement valables.
Mm-hmm.
Bon, les services à la société, avec le temps, l'université a fait des extensions. Parce que la création, par exemple, du CIDEP, la formation donnée en dehors des cours classiques, était organisé effectivement, et à l'époque, je me rappelle, du temps donc de Gaza, c'était florissant. Dans tous les établissements d'enseignement supérieur, on avait des extensions de CIDEP. Mm-hmm. Donc, ça dépend des périodes.
Mm-hmm. Évidemment. Mais à partir de quel moment est-ce que la courbe a commencé un tout petit peu à descendre?
Enfin, la courbe a commencé un peu à descendre vers les milieux 77-76. Parce qu'à ce moment-là, la crise économique que connaît le pays a eu des répercussions sur l'université.
Mm-hmm.
C'est à l'époque où on a commencé à parler de la contribution des parents.
Mm-hmm.
Avant, on ne parlait pas de ça.
Mm-hmm.
Quand je donne, par exemple, j'ai donné l'exemple de ce que l'État payait, d'après les documents que nous avons de la Banque mondiale. En 1981, l'État a dépensé environ 6 000 $ par étudiant.
Mm-hmm.
Mais plus tard, bon, ça a fortement, effectivement, baissé. En 1985, je crois qu'il dépensait 700 $. Mm-hmm. Je vous ai dit qu'en 2000, c'est 20 $. Vous voyez, donc, c'est tout ça qui fait que la courbe, effectivement, a commencé dès que les ressources, surtout financières, n'ont plus suivi, ce qui n'a pas permis de maintenir les équipements,
mm-hmm.
de payer le personnel comme il faut. Tout mm-hmm. ça a entraîné effectivement une certaine baisse.
Le professeur Kenga, nous vous gardons avec nous. Nous allons prendre le professeur Kaumba, recteur à l'université de l'université de Lubumbashi. Il est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Oui, professeur, je pense que vous venez de suivre ce qu'a dit le professeur Kenga de l'université de Kinshasa. Êtes-vous de son avis? Pensez-vous que êtes-vous du même avis que lui que pendant un moment l'université a produit des très bons éléments et qu'aujourd'hui la courbe a un tout petit peu baissé?
Oui, c'est-à-dire que lorsque le financement baisse, il est tout à fait normal que le rendement puisse aussi baisser.
Mmh.
Il faut ajouter ceci. Ce que le professeur Kanga a dit, le rendement a baissé, mais ça ne signifie pas que le rendement a été nul.
Mmh.
Parce que malgré les conditions difficiles, le personnel enseignant et les chercheurs ont continué, dans des situations extrêmement difficiles, à produire jusqu'à un certain niveau de recherche scientifique. Vous constaterez que dans d'autres pays, par exemple, c'est pendant la guerre qu'il y a eu des grandes inventions.
Mmh.
Ici, chez nous aussi, c'est pendant la crise qu'on a vu le niveau de résistance à la disparition de la part du corps enseignant, de la part des milieux universitaires.
Mm-hmm.
Donc ça n'a pas été nul. Nous avons été capables de produire des éléments valables, mais en fournissant plus d'efforts qu'avant et en connaissant plus de pertes qu'avant.
Oui, mais quand vous parlez que la recherche s'est poursuivie, mais avec quels moyens? Parce que la recherche demande énormément de moyens. Aujourd'hui, vous le dites, c'est difficile pour les universités de réunir suffisamment de moyens pour fonctionner. Mais alors, comment se font les recherches scientifiques?
Il y a des éléments qu'on appelle un peu des débrouilles. Prenons le cas des enseignants qui ont, pour la plupart, été travaillés dans des ministères. Il y en a qui ont financé la recherche avec l'argent qu'ils allaient gagner dans des ministères.
Est-ce que c'est normal?
Du point de vue de la criminologie, on dit que c'est une situation, c'est un comportement normal dans une situation anormale. Nous étions dans une situation anormale. Comment survivre dans cette situation anormale? Eh bien, il y a des personnes qui allaient travailler en dehors de l'université avec le produit de leurs activités en dehors de l'université. Ces personnes ont financé la recherche et elles ont financé l'enseignement.
Mmh. Est-ce que vous avez une bibliothèque? Elle est fréquentée au niveau de l'université de Lubumbashi?
C'est-à-dire que pour le moment, la bibliothèque de l'université de Lubumbashi est à jour. Parce que nous avons, grâce à la coopération belge, maintenant grâce à la coopération américaine, nous avons remis à jour nos bibliothèques à partir de 2000. Donc, pour le moment, il n'y a pas de problème en ce qui concerne les bibliothèques. Il n'y a pas non plus de problème en ce qui concerne le gros des laboratoires.
Professeur Kenga, je reviens à vous. On entend beaucoup dire que le niveau d'études dans notre pays a sensiblement baissé, que la dégradation de l'université, de l'enseignement universitaire au Congo est très criante, mais est-ce qu'on peut en connaître la cause véritable?
Bon, c'est un problème complexe. Hein. Les causes sont effectivement multiples. Je série quelques problèmes. Par exemple, à l'université, la langue d'enseignement est le français.
Oui.
Mais ceux qui entrent à l'université ne maîtrisent pas la langue d'enseignement, le français. Vous le savez que déjà au niveau du primaire,
mmh.
ceux qui sortent du primaire n'ont pas le niveau de formation, le minimum exigé du primaire. Ceux-là passent au secondaire. Au niveau du secondaire, s'accumulent aussi des faiblesses. Donc nous recevons à l'université, je ne dis pas tous les étudiants, mais malheureusement le grand nombre, ils ne maîtrisent pas la langue d'enseignement. Alors, S'ils ne comprennent pas ce que les enseignants disent, et même ils ont difficile à s'exprimer, ça devient un problème. Donc là, à ce moment-là, le rendement va être effectivement difficile parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Bon, ça c'est effectivement un problème. Par rapport au passé, le passé avait une certaine politique de sélection. Ce n'est pas comme maintenant où tous ceux qui entrent au secondaire ont comme finalité le supérieur. Et tout le monde entre sans sélection. Évidemment, c'est tout à fait normal que cela va se répercuter sur le résultat général de ceux qui sortent. Tout le monde n'est pas vraiment préparé pour faire l'enseignement supérieur.
Professeur, vous venez là de toucher d'ailleurs un point important. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus cette sélection? Tous ne sont pas habilités à aller à l'université. Pourquoi l'université aujourd'hui n'est plus en mesure de sélectionner les candidats qui doivent être acceptés au sein des universités?
Ça, c'est un problème de politique nationale. Parce qu'avant, la sélection existait, l'État, la politique d'éducation, accepter le principe de sélectionner.
Mm-hmm.
Effectivement, je me rappelle quand les gens, maintenant, j'ai entendu les parents se plaindre du résultat, ainsi de suite. Mais eux-mêmes, les parents savent quand eux entraient à l'université, il y avait une sélection.
Mm-hmm.
On n'entrait pas à l'université quand on n'avait pas 60% d'examen d'État. On n'entrait pas dans un institut supérieur si on n'avait pas 55%.
Mm-hmm.
Ceux qui avaient moins de ces données étaient en préparatoire, en pré-universitaire pour compléter et partir. Or, pour le moment, le seul critère général, c'est le diplôme d'État.
Mm-hmm.
Que vous ayez, avec 50%, on vous inscrit.
Mm-hmm.
Bon, tous nous savons très bien ce que représentent réellement les 50% d'examen d'État.
Mm-hmm.
C'est ça aussi le grand problème. Donc, ceux qui entrent posent effectivement problème. Donc, la matière première, parce que c'est le facteur le plus important, en fait, c'est celui-là. C'est la matière première, les ressources humaines. Alors, d'un côté, vous avez les étudiants. De l'autre, vous avez effectivement les enseignants.
Mm-hmm.
Qu'on le veuille ou pas, dans le pays, les enseignants n'ont pas toujours été mis dans de bonnes conditions.
Mm-hmm.
Y compris depuis le primaire jusqu'au supérieur. Là, nous parlons plus du supérieur.
Oui.
Mais effectivement, moi, je prends mon propre cas.
Mm-hmm.
La situation que j'avais en tant qu'assistant est de loin supportable, meilleure que celui de professeur ordinaire. Simplement parce qu'à l'époque, quand moi je suis entré comme assistant, j'étais logé par l'université,
mm-hmm.
j'avais un moyen de transport, j'avais un crédit pour la documentation scientifique, plus mon salaire.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps?
Oh, mais entre-temps, tout s'est dégradé. Quand on vous dit que le budget, l'État qui payait, n'a plus d'argent, suffisamment d'argent pour payer, mais les gens ne sont pas payés.
Professeur Kaoumba, je reviens à vous. Vous venez d'entendre ce qu'a dit le professeur Kenga. Donc, l'État n'est plus en mesure de payer ce qu'il devait à l'université. Mais est-ce que l'université n'est pas elle-même en mesure de se prendre en charge?
Il est impossible que l'université se prenne en charge elle-même totalement. Le coût moyen pour le moment d'un étudiant, le minimum dans la région, c'est 1000 dollars par étudiant par an. Or, quand les étudiants contribuent avec environ 100 ou 150 dollars, et si on ajoute à cela ce que l'État paye comme rémunération, nous n'atteignons même pas 300 dollars par étudiant par an.
Donc,
toutes les universités bénéficient toujours des subventions extérieures pour pouvoir tenir les coûts. Et normalement, pour les universités publiques, nous devrions avoir le minimum requis pour nous permettre de bien fonctionner. Parce que quand on n'a pas le minimum requis, eh bien, cela se ressent sur la formation et sur la recherche. C'est d'ailleurs pourquoi on voit que certaines facultés sont désertées.
Mm-hmm.
Vous avez la faculté de lettres, qui est la plus grande productrice d'enseignants du secondaire.
Mm-hmm.
Et elle a été désertée. Et quand la faculté de lettres est désertée,
mm-hmm.
eh bien, cela se ressent sur l'enseignement secondaire, sur le niveau de l'enseignement secondaire,
mm-hmm.
parce qu'il y a de moins en moins d'enseignants qualifiés à ce niveau-là. Et quand il n'y a pas suffisamment d'enseignants qualifiés, les étudiants qui viendront à l'université vont accuser des lacunes. Il faut aussi reconnaître que dans tout ce contexte, On a vu qu'il y a des écoles qui ont tenu le coup.
Mmh.
À tel point qu'à l'université, il y a des écarts assez criants entre les candidats provenant de diverses écoles.
Mmh.
On voit même au niveau du secondaire, parfois, vous avez des élèves qui ont une meilleure maîtrise de la langue d'enseignement que les enseignants.
Mmh.
Ce sont des situations que nous connaissons. Donc, ce qui doit être fait, il faut que l'État contribue. Et il ne faut pas non plus oublier que l'enseignement universitaire ne peut pas être gratuit. Les apprenants doivent aussi contribuer.
Ok. Alors, parlons un peu de la sélection. C'est peut-être ça qui explique qu'il y ait pléthore dans les classes aujourd'hui. Et donc, les conditions d'études aussi deviennent difficiles, professeur.
Non, je ne sais pas ce qu'on appelle pléthore. Hein. Vous savez, nous sommes un pays qui compte environ 60 millions d'habitants. Et nous avons moins de 350 000 étudiants, alors que nous devions avoir, pour 60 millions d'habitants, nous aurions dû avoir dans les universités à travers notre pays au moins entre 500 et 600 000 étudiants.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est un premier élément. On dit peut-être plutôt parce qu'on a moins d'universités, nous aurions dû en avoir davantage. Et le peu d'universités dont nous disposons ne parvient même pas à récupérer le gros de la demande. Ceux qui auraient dû aller dans les instituts supérieurs, dans les écoles professionnelles, ainsi de suite, la plupart sont sur les pavés.
Mm-hmm.
Nous ne remplissons même pas suffisamment notre mission parce que les effectifs dont nous disposons ne sont pas suffisants au regard si nous considérons les besoins du pays. Pléthore, dans la mesure où peut-être il y a des infrastructures qui ne conviennent pas aux effectifs que nous recrutons.
Professeur Kanga, vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous étiez assistant, votre situation était de loin meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Parlons un peu logement, parce que bon, dans notre chronique étudiant, nous avons épinglé beaucoup d'aspects hein, et on crée aux étudiants le logement aujourd'hui dans les universités. Dans quelles conditions vivent les étudiants? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles sont les mesures prises hein, par vous, responsables dans les universités, pour pouvoir aider les étudiants à être mieux logés? Vous savez, tout ça, ça joue. Vous qui êtes psychologue, vous le savez.
Hein? Oui, mais effectivement, je le sais. Dans quelles conditions logent effectivement les étudiants? Bon, reconnaissons simplement qu'ils ne logent pas dans des conditions vraiment incitant au travail scientifique. Quand vous partez dans les internats, dans les établissements, les chambres prévues pour peut-être deux étudiants, à l'époque c'était un étudiant, pour deux étudiants ou trois, maintenant ils sont plus. Parce que je ne peux pas dire avec beaucoup de précision parce que je ne suis plus depuis un certain nombre d'années gestionnaire des établissements, mais à l'époque, je savais que les étudiants sous-louaient. C'est-à-dire qu'officiellement, on loge trois étudiants dans la chambre, eux prennent à leur tour ce qu'ils appelaient les maquisards. Donc chacun va chercher aussi à sous-loger. Alors, ils se retrouvent dans une chambre prévue pour deux étudiants, ils se retrouvent à 6 à 8, mais comment voulez-vous qu'ils travaillent? Donc ça, c'est effectivement, c'est un problème réel.
Et vous êtes au courant de cela et vous laissez faire, professeur?
Mais posez la question aux gestionnaires. Hein. Certains des difficultés qu'on a eues et des troubles, c'est à cause de ça, vous mettez les gens en difficile parce qu'ils préfèrent rester sur le site vu le problème, par exemple, de transport. Hein, pour prendre la ville de Kinshasa.
Mm-hmm.
Hein, quelqu'un qui habite effectivement Massina, s'il doit venir tous les jours, commencer le cours à 8h30, donc il doit prendre le transport et venir. Alors, il y en a qui trouvent qu'il vaut mieux rester. Ce n'est pas autorisé par des autorités à Kani pour dire que c'est on laisse faire. Mais, écoutez, d'un côté, vous vous trouvez devant un problème. Mettre de l'ordre et de la discipline, et pour ça, il faut une bonne police, parce que les étudiants sont très nombreux, et la mentalité n'est plus la même comme avant. Hein? Les gens trouvent que, quand vous dites aux étudiants hein, que les conditions actuelles que vous vivez là ne sont pas des conditions normales, il y en a qui n'ont pas de point de repère. Hein. Ils ne savent pas trouver que, effectivement, que ce n'est pas normal. Qu'ils sont 6 dans une chambre ou 8, alors que la chambre est prévue pour 2 personnes.
Mm-hmm.
Voyez donc le problème. Si vous voulez, mettre, on ne dit pas que les autorités ferment les yeux, mais en tout cas, la pression est telle Hein, comme disait effectivement le recteur de Lubumbashi, la pression de la demande est telle, les infrastructures étant minimes, alors on se retrouve devant effectivement cette situation-là.
Nous avons beaucoup de questions qui nous arrivent un peu de partout et le sujet est vaste, je dis. Vous savez, moi-même je reste sur ma chaise parce que j'ai beaucoup de questions, mais malheureusement le temps nous fait défaut. Nous avons plusieurs questions, par exemple celle de l'étudiant Alphonse Okomba ou à Soumaïli, il est à Kalemi. Il s'inquiète, il dit pourquoi à certaines universités, il met entre deux crochets extension, le respect des normes académiques n'est pas considéré par les autorités académiques. La même préoccupation est, vient de monsieur de Georges qui est à l'UNILU Kolwezi. Je pense que c'est une extension de l'UNILU Kolwezi, Lubumbashi, de l'université de Lubumbashi, voulais-je dire. Il dit comment évoluer au sein d'une université sans bibliothèque. Je pense que le professeur Kaouma, peut-être vous pouvez rapidement y répondre.
Oui, quand vous avez des extensions, lorsque l'extension a été ouverte, c'était pour rapprocher l'université des apprenants.
Oui.
Et lorsque on ouvre une nouvelle extension, c'est tout à fait compréhensible que pendant un certain temps, les bibliothèques ne peuvent se constituer que progressivement. Donc on ne peut pas ouvrir une extension aujourd'hui et avoir 50 000 ouvrages dans cette extension. Et c'est pourquoi nous limitons les possibilités dans les extensions à certaines facultés et nous exigeons toujours que tous ceux qui ont commencé dans les extensions viennent à la maison mère à Lubumbashi pour terminer le second cycle. Ce sont des difficultés compréhensibles lorsque on démarre progressivement l'implantation d'une extension. Et les extensions ne peuvent être en université que lorsque, à un certain moment, elles disposent d'un personnel suffisant, d'une infrastructure suffisante et d'une documentation adéquate.
On déplore également, monsieur le professeur, à vous de choisir lequel répondra, que vous abandonniez la dispense des cours aux assistants. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être aussi une des causes de la dégradation du niveau du niveau d'études à l'université.
Écoutez, ça dépend. On ne peut pas généraliser, hein, dire que tous les professeurs ont abandonné les cours effectivement aux assistants. Ça dépend des méthodes pédagogiques. Vous savez que dans les milieux universitaires, ce ne sont pas des écoles normales, où il est prévu une période où on fait de la pédagogie, une période où les futurs enseignants s'entraînent. Nous, on fait tout cela au même moment. C'est-à-dire que quand l'assistant doit venir assurer des travaux pratiques ou des séminaires, généralement, il faut qu'il connaisse le cours et on demande qu'il vienne assister lui-même au cours. Et avec le temps, il y a une certaine partie, une certaine expérience qu'ils acquièrent. Alors, les scientifiques, nous avons plusieurs groupes de scientifiques. Nous avons des chefs de travaux qui ont une certaine, effectivement, expérience, qui peuvent, effectivement, assurer, prester, donner une certaine partie, notamment ne fût-ce qu'un chapitre. Moi, je parle souvent, je préfère partir de moi-même, de mon expérience à moi. Moi, j'assure, pas pour tous les cours. Certains cours, nous les assurons ensemble avec les assistants. Comment? Moi, j'introduis le cours. Tout le cours, je le présente pendant une ou deux séances, l'essentiel. Ensuite, les chefs de travaux, chacun prend une partie. Il vient, il l'explique, il complète. Évidemment, quand il y a un support, on fait ça, effectivement, c'est plus facile. C'est-à-dire que moi, je n'abandonne pas la responsabilité du cours, effectivement, à l'assistant, non, ou au chef de travaux. Mais je prépare le tout, c'est moi qui prends la responsabilité. Bon. Et ça dépend des niveaux. Hein. Au niveau du graduat, on peut adopter une pédagogie qui est tout à fait différente qu'au niveau de la licence, où les cours, généralement, en tout cas, c'est ma méthode à moi, je le donne plus en séminaire. Et là, et les étudiants lisent, nous venons discuter, les chefs de travaux, les assistants viennent assister aussi à ces discussions, chacun participe. Donc, je sais, hein, je ne peux pas cacher ça, que certains des collègues, peut-être trop pris, abandonnent le pourmet entièrement, bah, je ne sais pas, hein, parce que chacun de nous est quand même responsable, de ce qu'on fait.
Ok, merci beaucoup à vous, professeur Kianga. Je rappelle, vous êtes psychologue et professeur à l'université de Kinshasa. Professeur Kaumba, vous êtes recteur à l'université de Lubumbashi. Merci également à vous. L'un et l'autre, vous avez été, c'est vous qui avez exposé lors du cinquantenaire de l'université. Hein, c'était le 21 avril dernier. Et professeur Kaumba, c'est vous qui avez coordonné le comité organisateur du symposium. Merci à vous deux et au revoir.
Merci beaucoup.
Merci madame, au revoir.